c'est parti. La hauteur, on peut l'ajuster aussi. Ça ira peut-être, il y a Pépette.
Ça va comme ça? Alors, en général, il faut me sonoriser assez fort, j'ai pas une voix très, très punchy, mais...
Est-ce que vous l'entendez, là?
Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ça va?
Oui,
super. Bon, merci d'avoir un peu atténué la responsabilité du micro à la fin. Heureusement, c'est pas moi, mais la parole de Dieu qui est ce repère, et par la grâce de Dieu, j'essaie de la transmettre. Mais je voudrais commencer par vous transmettre les salutations de l'Église à Besançon. C'est aussi un aspect de ce côté de pierre vivant qui se rassemble. On est des pierres un peu dispersées dans tout ce monde et dans toute notre région. Mais on est ensemble malgré tout et on veut former un édifice tous ensemble. Je ne sais pas si... c'est un mois de mai ce mois-ci où il y a beaucoup de week-ends prolongés. Je ne sais pas si vous attendiez ce temps dans le calendrier avec... impatience, si vous étiez fatigué, que vous aviez besoin de week-ends longs, de repos, comme ça. Et par rapport au repos, du coup, j'aimerais lire avec vous deux paraboles de Jésus qui parlent de repos.
Est-ce que tu as besoin qu'on transmette, je n'ai pas demandé seulement si tu as le support.
Non, je n'ai pas de support.
C'est bien, c'est
Alors, ces deux paraboles de Jésus sur le repos, elles se trouvent dans l'évangile de Luc. Donc, pour ceux qui ont envie de suivre avec moi, la première est dans l'évangile de Luc au chapitre 12, à partir du verset 36. Donc Luc chapitre 12, verset 36. C'est Jésus qui disait « Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se ceindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille et les trouve ainsi, heureux sont-ils. » Ça, c'était la première parabole. La deuxième parabole se trouve aussi dans l'évangile de Luc, cette fois-ci au chapitre 17, à partir du verset 7. Luc, chapitre 17, à partir du verset 7. « Qui de vous, s'il a un serviteur qui laboure ou fait paître son troupeau, lui dira, quand il revient des champs, « Viens tout de suite te mettre à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi le repas, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Aura-t-il de la reconnaissance envers ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Ça, c'était la deuxième parabole. Et là, je me dis « Ah, est-ce qu'enfin on a trouvé un point sur lequel Jésus se contredit lui-même ?» Je dis ça avec un petit sourire en coin. Je ne sais pas si dans vos discussions avec les gens autour de vous qui ne croient pas, on vous a déjà mentionné le fait que la Bible était remplie de contradictions, alors pourquoi croire un livre pareil? Parce que visiblement, ces deux paraboles, elles ne vont pas tout à fait dans le même sens. Alors peut-être que ce n'est pas tout à fait une contradiction, peut-être que c'est juste que Jésus voudrait qu'on conclue qu'il vaut mieux travailler de nuit si on veut être bien traité par son maître. Mais ça paraît un petit peu bizarre d'arriver à cette conclusion. Ou alors peut-être qu'il vaut mieux ne pas travailler en extérieur. Enfin, je sais pas. Bon, bien entendu, tout ça, c'est n'importe quoi. À une époque, j'avais eu des cours dans un institut biblique et on avait un prof, le prof qui nous enseignait comment analyser et étudier les textes bibliques. On savait, parce que les étudiants des années précédentes nous avaient un peu annoncé la blague, on savait qu'à un moment donné, le prof allait tout d'un coup monter sur la table et nous crier dessus « contexte, contexte, contexte ». Une manière très imagée de nous faire entrer dans la tête pour qu'on se rappelle toute notre vie, parce que voir un prof debout à hurler sur une table, on s'en souvient toute sa vie, pour qu'on se souvienne toute notre vie que quand on étudie un texte de la Bible, il faut toujours tenir compte du contexte dans lequel il est donné. Et c'est particulièrement utile quand on a l'impression que des textes n'ont pas de sens ou se contredisent entre eux. On se dit, tiens, peut-être qu'il y a une clé dans le contexte qui peut nous aider à comprendre pourquoi on ne comprend pas. Alors, je vais regarder un petit peu le contexte avec vous. Je ne vais pas tout lire parce qu'on n'a pas tout à fait le temps de le faire. Mais la parabole où le maître se met à la fin à servir ses esclaves, elle a pour contexte des promesses sur le royaume qui sera donné à ceux qui suivent Jésus. Et on est dans tout un passage où on a un appel à laisser, par exemple, de côté les richesses périssables pour obtenir celles qui sont éternelles. Et ces richesses éternelles seront offertes par Dieu. Je vous donne juste un petit florilège hein, du chapitre 12 de Luc. Au verset 15, on lit « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » Et plus loin, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu auras préparé, à qui cela sera-t-il ?» Ça, c'était le verset 20. « Cherchez plutôt son royaume, et cela, c'est-à-dire le reste, vous sera donné par surcroît. » Verset 31. « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Verset 32. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleurs qui approchent, ni de mythes qui détruisent. Ça, c'est le verset 33. Vous voyez, Jésus vient de donner toute une série de promesses qui sont basées sur la bonté et sur la générosité de notre Dieu. Oui, il va venir un moment où on va pouvoir se reposer de nos œuvres. Et à ce moment-là, on va entendre la douce voix de notre maître qui va nous dire « C'est bien, bon serviteur, je t'accueille, je t'invite à goûter du repos et des délices de ma présence. » Dans ce chapitre-là, le chapitre 12, Jésus nous invite à regarder vers l'avenir et vers le jour où, Jésus, où Dieu va nous accueillir et nous donner du repos de toutes nos œuvres. Parce que le paradis, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est lui qui nous l'offre. Et en vrai, dans sa grâce, Dieu nous donne des avant-goûts de ce temps de repos, de ce temps de réjouissance. Et les week-ends comme celui qu'on est en train de vivre, là, avec un petit jour férié en plus, alors, bien sûr, ce n'est pas une fête religieuse, mais malgré tout, c'est quand même Dieu qui nous dit, tiens, tu vois, ce temps de repos, là, que tu goûtes, on t'offre. Parce que ce n'est pas nous non plus qui avons fait la guerre de 39-45 pour aboutir à l'armistice. Ce temps de repos qui nous est offert, c'est un avant-goût de ce repos que Dieu veut nous donner dans l'éternité. En même temps, il y a l'autre parabole qui paraît un petit peu plus dure, où le repos semble interdit. Et cette autre parabole, elle a aussi un contexte. Et ce contexte, c'est l'aboutissement de toute une série d'enseignements que Jésus donne sur la vie de disciples. Et je vais vous lire juste quelques extraits à nouveau. Je vais remonter à partir du chapitre 16, verset 9. « Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. » Autrement dit, à nouveau, il est question de biens matériels. Luc en parle beaucoup. Autrement dit, Jésus nous demande à utiliser judicieusement nos biens pour contribuer à bâtir le royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est normal dans la vie de disciples. En 16-10, Jésus avait dit « Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. » Chapitre 16, verset 13, Jésus disait « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon était une personnification d'une divinité de l'argent. Autrement dit, Jésus a enseigné que dans la vie de disciple, l'amour de l'argent détourne de l'amour de Dieu. Chapitre 16, verset 18, Jésus avait dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. » Autrement dit, Jésus disait « Celui qui aime Dieu doit aussi aimer l'institution du mariage que Dieu a établie et qui est une image de cette relation qu'on peut avoir avec lui. » En 17.3, Jésus avait dit « Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. » Autrement dit, Jésus mettait l'importance dans la vie de disciple sur le fait de prendre soin de nos relations les uns avec les autres. En quelque sorte, Jésus conclut que toutes ces œuvres dont il a parlé, et c'est qu'une série d'exemples assez limitée, toutes ces œuvres sont attendues du disciple. Dans le sens où quelqu'un qui négligerait toutes ces choses, sa manière de gérer les biens, sa manière de gérer ses relations conjugales ou ses non-relations conjugales, ou sa manière de gérer ses relations avec les autres disciples, toutes ces choses, c'est attendu du disciple. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'en prendrait pas soin, qui ne voudrait pas écouter Dieu dans tous ces domaines, serait en train de faire douter qu'il veut vraiment être un disciple du Seigneur. Et du coup, la parabole que je vous ai lue au début, elle a pour but de rappeler que chacun a sa place. Lui, il est le maître. Nous, nous sommes de simples créatures, de simples serviteurs. Même le texte ne nous dit rien de plus que des esclaves. Ça veut dire que nous, qui est-ce qu'on serait pour exiger de sa part quelque chose? À quel moment est-ce que Dieu aurait une dette à notre égard? C'est plutôt nous qui avons une dette à son égard, dans le sens où on lui doit même notre vie. Quand notre frère nous rappelait qu'on était des pierres vivantes, c'est vrai qu'une pierre c'est mort à la base, et si on est vivant, c'est juste par sa seule grâce et par son seul cadeau. Le disciple ne fait rien pour obtenir quoi que ce soit, parce que sinon Dieu ne serait plus un Dieu de grâce. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'on est appelé à nous approcher de Dieu. Dieu ne nous doit pas de passer des temps bénis et reposants. Et quand on reçoit des moments de repos, c'est uniquement un cadeau qui est l'effet de sa grâce. Et en même temps, même durant les temps de repos, on reste des serviteurs. On est les serviteurs du maître, premièrement, mais aussi, on est les serviteurs les uns des autres, par voie de conséquence. Et en fait, en vrai, la plupart du temps, servir le maître, ça consiste à se servir les uns des autres. Parce que finalement, notre maître n'a pas besoin de grand-chose. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que Jésus nous appelle à vivre toujours, à chaque instant, dans une attitude de service. Et c'est quoi une attitude de service? Là, je ne parle pas seulement de... Je ne sais pas comment vous fonctionnez ici, à l'église. Si vous avez un planning, vous vous inscrivez pour dire tel jour je fais le ménage, tel jour je fais la sono, tel jour je chante, etc. Et toutes ces choses, c'est important de le faire. Ça fait partie du service. Mais le service va plus loin que juste de cocher des cases dans un agenda. Je parle bien d'une attitude de service. Et l'attitude de service, c'est d'être attentif les uns aux autres, à l'écoute de nos fardeaux respectifs, être prêt à partager des expériences, à donner des conseils, être prêt à offrir une prière. Prier aussi, c'est servir. Prendre le temps avec quelqu'un qui est esselé. Des fois, juste rigoler avec quelqu'un, c'est une manière de le servir. Ça ne coûte pas si cher que ça, finalement. Entendre le témoignage les uns des autres. Expliquer avec vulnérabilité les épreuves par lesquelles on passe. Tout ça, c'est une manière de servir, parce que en faisant ça, on rappelle qu'on est des êtres faibles et qu'on a besoin de l'intervention de Dieu et qu'on a besoin les uns des autres. Et quand on prend le temps de s'écouter les uns les autres, on peut réaliser que parfois il y a un simple besoin pratique qui a besoin d'être rempli. Quelqu'un qui a une poignée à réparer chez lui. Quelqu'un qui n'a pas de temps libre pour effectuer une démarche parce qu'il y a les enfants qui sont là. Quelqu'un qui n'a plus la force d'entretenir le jardin. Quelqu'un qui n'a pas assez de bras pour faire un déménagement. En fait, si on se rappelle à chaque instant qu'on est des serviteurs du maître et du coup qu'on est serviteurs les uns des autres, si on se met à l'écoute, on va se rendre compte qu'on a plein d'occasions de se servir les uns des autres. Les serviteurs de la parabole qui ont la surprise d'être servis à table par leur maître, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la parabole, ils sont décrits de cette manière. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Les serviteurs du maître, là, sont veillants. C'est-à-dire qu'ils ne dorment pas. À une heure, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils dorment. Et s'ils ne dorment pas, c'est pas juste parce qu'ils sont en train de regarder d'un coup tous les épisodes de leur série préférée que ça les empêche de dormir. Non. Ils sont veillants parce qu'ils sont au service. Ils attendent que leur maître rentre pour les servir. Ils sont dans une attitude de service. C'est-à-dire que même dans cette parabole où on s'attend à la fin à ce qu'ils soient servis par leur maître, eux-mêmes sont dans une attitude de service. Cette attitude de service nous rappelle à chaque instant quelle est notre place. Il est notre maître. Nous savons qu'il est notre Seigneur, nous savons qu'il est digne d'adoration et que cette adoration passe par une vie consacrée à son service. Ça veut dire qu'un relâchement dans notre attitude de service, c'est le symptôme d'une maladie qui peut être assez grave. C'est une foi qui s'endort. Si mon maître ne me semble plus digne d'être servi, c'est que j'ai perdu de vue qui il est. J'ai perdu de vue qu'il est digne d'être servi, qu'il est le Seigneur de gloire, qu'il est le Créateur de l'univers, qu'il est le Rédempteur qui s'est offert pour moi, et qu'il est aussi le Juge qui vient. Je vous balance un peu d'un côté et de l'autre ce matin. Parce qu'on est tendu en fait entre deux réalités. On a d'un côté un maître qui nous a servi en mourant sur la croix pour nous. Et il l'a fait pour nous préparer un festin, enfin un festin, beaucoup plus qu'un festin, un festin dans l'éternité. Et de l'autre côté, on a un maître qui nous convient de servir. Et du coup, notre attitude de service, c'est une démonstration de cette tension qu'on vit, mais qui n'est pas une tension désagréable, une tension qui nous tiraille. Non, cette tension est une tension d'espérance. Si je sers maintenant, c'est parce que je sais que mon maître m'a promis un repos qui dépasse tout dans l'éternité. C'est-à-dire que je peux tout donner maintenant, parce que je sais que je vais tout recevoir dans l'éternité. Si je me relâche maintenant dans mon service, ça veut dire que je veux prendre maintenant un repos. Et ça veut dire que je n'ai pas confiance en Dieu qui va me donner le vrai repos à la fin. Vous comprenez le lien qu'il y a entre les deux ? Je préfère le repos momentané que je peux acquérir maintenant dans ce monde au repos céleste que le Père va m'offrir dans l'éternité. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que des temps de vacances, de sommeil, de changement d'air sont illégitimes. En fait, on est tous appelés à gérer sagement notre santé, que ce soit notre santé physique, notre santé mentale, et on sait qu'on ne peut pas être sous tension H24. Ce que je dis, c'est que, en fait, on est serviteur jusqu'au bout, à chaque instant, et bien sûr, quand je ne suis pas en vacances, je suis là pour servir la communauté par le travail dans lequel je suis. Je ne suis pas au travail juste pour accumuler des richesses, ou me construire une renommée, ou que sais-je. Je suis là pour servir. Mais quand je suis en vacances, alors bien sûr, j'arrête certaines activités. Mais quand je suis en vacances, d'un autre côté, je n'oublie pas que je ne vis pas que pour moi. Et il y a des fois où il faut accepter d'interrompre son repos pour servir quelqu'un qui a besoin de mon service. Et tous ceux d'entre nous qui sommes parents, on sait ce que ça veut dire. On sait que c'est légitime de dormir la nuit, mais on sait qu'au-dessus de notre besoin de repos, il y a le besoin de nos enfants qui peuvent être malades la nuit et qui vont nous empêcher de dormir. Et le fait qu'on accepte d'interrompre notre nuit pour servir nos enfants montre qu'en fait, aucun de nos moments de repos n'est suprême. Ce n'est pas une finalité en soi. C'est juste un moyen d'avoir un corps et un esprit prêts pour être mis au travail. C'est aussi un moyen de nous rappeler qu'on est des êtres limités et qu'on dépend de Dieu. Parce que même quand nous dormons, ou même quand nous sommes en vacances, Dieu ne se repose pas, et le monde continue à tourner, et notre vie continue à tourner. Encore une chose un peu différente. Parfois, le maître utilise notre service pour donner dès maintenant un avant-goût de son repos à d'autres. C'est assez évident. Hein ? Quand je sers quelqu'un, la personne que je sers, du coup, peut se trouver dans une situation de repos. Le travail que je fais, elle n'a plus besoin de le faire. En fait, si on réfléchit un petit peu, chaque fois que quelqu'un prend du repos, ça veut dire que ça coûte à quelqu'un d'autre du travail. Si je me repose, je ne fais pas un travail que quelqu'un d'autre est donc obligé de faire. Le repos que le maître nous promet dans l'éternité lui a coûté à lui un service difficile qu'il a mené à la croix. Et donc, en servant les autres, on leur annonce un jour, il y a un moment où on va se reposer parce que quelqu'un nous a servi. En fait, on peut même dire que si on a été créé avec la responsabilité de travailler, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Dieu nous a créé, ça c'est un peu plus bas, quand Dieu nous a créé dans le jardin d'Éden, avant même que le péché entre dans le monde, on avait cette responsabilité de travailler, puisqu'il fallait gérer le jardin, etc., etc. Et si Dieu nous a créé avec la responsabilité de travailler, c'est que Dieu avait prévu que le monde, à ce moment-là, avant que le péché entre dans le monde, serait un paradis aussi par le moyen du travail qu'on produirait. Une autre manière de le dire, c'est que le monde serait un paradis par le service qu'on se rendrait les uns aux autres. Et Jésus l'a montré de manière suprême, hein, il a vaincu le péché dans le monde. Et le monde est rétabli parce que lui a servi. Alors, on ne veut pas créer le paradis sur la terre, on sait que ça, c'est une cause perdue. Mais ce qu'on peut faire déjà sur la terre, c'est en ayant un esprit de service, une attitude de service, on peut déjà donner un avant-goût de ce que c'est que le ciel. Imaginez, c'est juste un jeu d'imagination, imaginez quelle communauté extraterrestre ça serait l'Église si dans l'Église on avait comme motivation première de se servir les uns les autres. Si chacun vivait non pas pour ses propres intérêts, mais pour les intérêts des autres. Imaginez quelqu'un qui n'est pas de l'Église et qui entre dans cette communauté et qui voit que ça se passe comme ça. Comment est-ce que cette personne réagirait ? Elle se dirait tout simplement, en fait, cet endroit, c'est l'endroit que j'ai cherché toute ma vie. Parce qu'on aspire tous à ça. Que si vous regardez les mouvements sociaux qu'il y a aujourd'hui, ou si vous regardez les différents partis politiques, même s'ils prennent tous des voies différentes, ils ont tous en arrière-plan cette pensée qui est là. C'est qu'on a besoin d'un monde différent où chacun sert. Alors bien sûr, tous ne le disent pas de la même manière et ne le cherchent pas de la même manière. Mais il y a cette aspiration profonde dans l'humain derrière. En fait, il faudrait que chacun puisse avoir selon ses besoins. Et que les autres puissent fournir à chacun selon ses besoins légitimes. Et en fait, Dieu l'a préparé et Dieu en a donné un germe en créant l'Église. Et quel témoignage ce serait ? Et les gens entreraient et diraient « Ah, c'est de ça que j'ai toujours rêvé, en fait. La clé existe et elle a été donnée par le Seigneur. » Un aspect du fait qu'on est des pierres vivantes et qu'on construit ensemble, c'est cette vie de service réciproque que se rendre. Notre maître nous a servi pour nous donner le repos dont nous avons besoin. Et à notre tour, on est appelé à servir, pour nous donner les uns aux autres, et en fait au monde aussi qui nous entoure, un avant-goût du repos que le maître va nous donner dans l'éternité. Je voudrais vraiment qu'on soit convaincu de ça et motivé pour le faire. Je vous invite à la prière. À l'Éternel, je voudrais te remercier parce que toi qui étais assis sur le trône, tu aurais pu rester là et juste attendre d'avoir des esclaves qui viennent te servir. Ce n'est pas la voie que tu as choisie. Tu as, pendant des siècles et des siècles, préparé un plan pour nous sauver. Et au moment venu, tu as envoyé ton fils qui aurait pu rester au ciel aussi, mais qui a préféré venir servir. Il a choisi de venir servir pour nous ramener à toi. Et on veut te louer pour ça, parce que tu n'es pas un dieu à l'image des puissants et des rois de cette terre, mais tu es le Dieu qui construit, et en particulier qui construit des relations, qui se construit une communauté, un peuple. Et Seigneur, on voudrait être un peuple à l'image de ce roi, qui ne reste pas assis à attendre qu'on le serve, mais qui va au-devant des autres et de leurs besoins. Apprends-nous, Seigneur, à t'imiter dans ce domaine-là et à annoncer ce repos que tu vas nous donner dans l'éternité. Amen.
C'était interpellé. Donc, j'ai retenu cette illustration sur se réveiller la nuit pour les enfants. C'est vrai qu'on donne du coude pour savoir lequel il va, mais dans un service, peut-être que je vais réfléchir à deux fois en me disant que c'est une opportunité aussi de, voilà, pour ma fille, de mes filles, dans ce service aussi. Merci en tout cas pour nous avoir conduits dans ces pensées ce matin. On va bientôt arriver sur le terme de cette célébration. Il y a des annonces qui vont se faire. Vous voyez qu'il y en a beaucoup sur le tableau, beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai anticipé, hein, j'ai mis des feuilles de service. Je sais que maintenant, toutes les croix vont être cochées. Non, voilà, donc du coup, simplement, aujourd'hui, pour dire, donc, on va faire passer le... Bah, je vais demander à quelqu'un de faire passer le... Voilà, le fruit de la collecte ne sera pas pour l'Église. C'est le premier dimanche qui est associé à l'agape, donc le partage. C'est donc les fruits du... Les dons sont pour l'association Partage, l'association culturelle de l'Église. Partage, c'est assez facile à retenir. Qu'est-ce qu'on a encore ? On va pouvoir tourner un petit coup, petite Catherine, montrer prochain. Voilà, donc on a des besoins. Donc il y a le prochain CA qui se tient le 12 mai, donc bien invité à prier pour ce qui pourrait s'échanger. Au détour, si vous allez aux toilettes tout à l'heure ou en passant un petit peu dans les locaux, vous verrez, donc, il y a les placards ont été posés dans le couloir, les peintures ont été posées aussi, et il est proposé, je me suis trompé de date, c'est pas le samedi, c'est le vendredi prochain, je crois c'est le 12, il y a un temps qui est proposé à ceux qui veulent venir de peinture, et pour ce faire, je vous proposerai de nous dire un petit peu ce qu'il en est concrètement. Voilà, on se pose des questions aussi un petit peu d'égo, et la question tendance, c'est de savoir si on ferait les encadrements de porte en blanc et la porte en blanc, ou inversement. Il y a un petit montage à faire, il y a une petite feuille qui est présente. L'idée, c'est que chacun donne son idée, puis on partira sur où il y a le plus de croix. Et Eddie est invité aussi à remplir cette feuille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la feuille, c'est bon. Un petit rappel fraternel, mais vraiment de manière fraternelle. Il y a les cotisations en cours qui sont à régler. Bon, je n'ai pas de nom, hein, libre à chacun, on sait où on en est dans les cotisations pour les membres d'église, de 10 euros. Il y a une petite table de littérature qui est présente. Donc il y a deux, je rappelle, il y a deux tables. Il y a la table des annonces gratuites, juste derrière donc ce mur. Et la table à l'opposé, c'est une table de littérature. C'est payant, il y a une petite boîte, vous mettez ce que vous voulez. Et si vous avez des besoins tout à l'heure, je peux me rendre disponible pour discuter autour de ce qui est sur cette table. Voilà, et nous aurons donc après ce temps, la proposition de passer un temps ensemble en ville agape. Donc, je le redis encore, mais quand bien même vous n'avez pas, comme moi, à portée de gâteau ou je ne sais quoi, vous pouvez rester, hein. Il y en a suffisamment assez, et souvent il en reste un petit peu pour que chacun s'y retrouve. Je vous proposerai, je m'excuse pour ceux qui sont en visio, ils n'ont pas eu la vidéo aujourd'hui, il y avait le son, mais il y a un petit cafouillage en vidéo, j'ai pas su goupiller les paramètres, donc voilà. Bon. Est-ce qu'ils sont restés, même avec de l'audio? Vous nous entendez? Excusez-nous pour ne pas pouvoir mettre la... La, la, la,